Mémoire vive,
présentée par Perrine Carvran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous, comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. HH, c'est le titre étrange de la pièce de théâtre qui est au sommaire de l'émission d'aujourd'hui. HH comme Heinrich Heine, mais HH aussi comme Heinrich Himmler, deux noms. Celui d'un poète et celui d'un bourreau nazi, qui semble ne pas pouvoir ni devoir jamais cohabiter. Et pourtant, cette pièce de théâtre grinçante raconte un improbable conseil municipal où des élus doivent choisir le nom d'un collège, nom qui doit comporter HH comme initiale. Le collège devait s'appeler Heine, mais certains élus trouvent le nom trop banal, trop entendu, trop donné, trop présent, et soudain, l'impossible surgit. Heinrich Himmler est né dans la petite ville, il a marqué l'histoire à sa façon. Il peut prétendre au titre de plus grand criminel du XXe siècle, pourquoi ne pas donner son nom au collège? Après un bref moment d'indignation, les élus comparent les écrits de l'un et de l'autre pour se décider. Avec nous pour parler de cette pièce, l'auteur et metteur en scène, Jean-Claude Grimbert. Bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être vous pouvez nous dire comment vous est venue l'idée étrange de cette pièce de théâtre.
Alors au tout départ, c'est la lecture d'un livre de David Rousset qui s'appelle « Le pitre ne rit pas » que j'ai dû lire dans les années 60, je pense. Et j'ai découvert des lettres d'Himmler qui étaient citées dans cet ouvrage qui est un recueil de lettres. Alors il y a aussi bien les collaborateurs français, il y a des lettres des lettres administratives de toutes sortes. Et il y avait quelques lettres d'Himmler qui m'ont, comme on dit, interpellé. Et après, j'ai trouvé un livre où il y a la correspondance complète d'Himmler. Et je me suis demandé comment faire entendre. C'est-à-dire, on parle du nazisme, on voit Hitler à la télévision, dans des tas. Mais on n'entend pas leur logique, on n'entend pas le bon sens génocidaire, c'est-à-dire cette sorte à la fois de calme, de crispation, il y a quelque chose de... Voilà, c'est une... Voilà, en allemand, c'est une langue particulière. Et ce qui reste en français, c'est cette idée de la nécessité de leur action. Voilà. Je me suis dit, d'une certaine manière, au théâtre, on devrait pouvoir faire entendre ce genre de ça n'était pas que des hystériques. Voilà. Il y avait de la raison, leur raison. Derrière. Et c'est ça qui est le plus effrayant. C'est-à-dire que si c'est des fous, c'est des fous. Mais là, c'est des fous logiques. C'est des fous qui ont étudié les textes de Goethe et de Heine. Même si Heine était interdit de son vivant, puis ensuite interdit par les nazis. Mais entre-temps, le père d'Heinrich Himmler, qui dirigeait un lycée dans cette petite ville, où Heinrich Himmler a été lui-même élève, travaillé sur des textes de Heine. Donc ça m'a paru... Alors ça a pris très longtemps. Hein. Et puis j'avais d'un autre côté envie de faire une pièce sur un conseil municipal, c'est-à-dire sur ce genre de réunion. J'ai vécu, moi, ce type de réunion à la Société des auteurs où on est là pour prendre des décisions, mais il y a toujours quelqu'un qui dit non, il ne faut pas prendre cette décision-là, prenons une autre et tout. Et on finit par ne jamais prendre de décision, ou alors en prendre qui essaye de... une sorte de truc moyen pour... Et puis il y a un comique particulier à ce genre de réunion où tout le monde essaye à la fois de dire que l'autre a tort et que soi-même on a raison, mais sans... plus de conviction, ils changent d'avis, on change d'avis, voilà. Alors, il se trouve que c'est une petite ville de Bavière, mais on pourrait imaginer, à Bordeaux, Maurice Papon quand même est très connu, donc pourquoi ne pas appeler une rue Maurice Papon en précisant criminel complice de crimes contre l'humanité, voilà, on serait à jour des deux côtés. Donc voilà, c'est une sorte de jeu destiné à être joué au théâtre, à être lu dans les écoles, et à permettre à une génération qui est menacée par une forme d'amnésie, d'avoir envie d'en savoir plus, et sur Heine, qui lui est vraiment en France tombé dans l'amnésie presque totale, et sur le nazisme, et ne serait-ce que pour pouvoir comparer ce type de discours avec des discours d'aujourd'hui ou de demain. Déjà pour voir qu'il y a une différence, mais que peut-être il y a aussi certaines logiques qui vont finir par se ressembler. En tout cas, c'est quelque chose, non pas sur le devoir de mémoire, mais sur cette crainte de l'oubli.
Oui, on sent effectivement, notamment à ce moment de la pièce, où à cette proposition d'un des membres du conseil municipal de baptiser le collège Heinrich Himmler, une indignation qui se lève immédiatement et puis qui retombe. Et oui. Ça, c'est intéressant, ce mouvement de l'indignation spontanée. Alors, on est tous très rassurés dans la salle, oui, quelle idée. Et puis, voir cette indignation retomber, c'est quelque chose d'assez déconcertant et qui, à la fois, semble très naturel.
Oui, comment ça... Bon, en fin de compte, c'est un nom. Voilà, c'est un nom et il y a les deux H qu'on vienne. Puisque les deux H d'Heinrich Heine sont déjà fabriqués. Donc il faut obligatoirement trouver un nom. Mais j'avais vu il y a très longtemps un reportage dans une petite ville où était né Mengele. Et alors c'était très impressionnant parce que la famille Mengele avait une usine et il y avait des tas de camions dans cette petite ville. C'est-à-dire ils suivaient tout ce qui était... Tout ce qui était inscrit, Mengele. Alors, il y avait des camions, il y avait des magasins, il y avait des publicités. Tout était Mengele. Et alors, après, j'ai appris que de temps en temps, il venait faire un petit séjour dans sa ville. Il avait des appuis, des amis, voilà. Il suffisait qu'il prenne l'avion sous un faux nom. Puis quand il arrivait, il était dans sa famille, voilà. Donc, il y a quelque chose de la vie qui continue. Voilà, de la vie de ces gens. Alors bon, Himmler, il s'est réglé, il a réglé son sort lui-même. Mais jusqu'au dernier jour, il pensait qu'il allait s'en tirer, que c'était rien en fait ce qu'il avait fait. Qu'il allait négocier avec les Américains, qu'ils allaient continuer la guerre ensemble contre les Soviétiques. C'est-à-dire, il y avait une sorte... D'ailleurs, il y a une lettre en 1945 où il explique qu'on ne meurt pas plus dans les camps de concentration qu'en dehors des camps.
Voilà. Il y a cette lettre incroyable que vous faites entendre sur la question de la mortalité par le cancer dans les camps de concentration.
Voilà, qu'il n'y a pas de mort par cancer dans les camps de concentration.
Etc. Alors de quoi meurt-on, dit-on ?
Voilà, il faudrait savoir de quoi meurt-il. On est en janvier 1945, c'est-à-dire qu'ils ont déjà effacé les traces des chambres à gaz dans certains camps. Ils ont déjà... vider les fosses et brûler les corps. Voilà, il y a un cynisme extravagant, quoi, en fait, qui porterait presque à rire, tellement... Mais disons que là, dans la pièce, le rire s'arrête à la fin des scènes du conseil municipal, et quand on se met à lire les lettres, il y a plus beaucoup de rire. Voilà.
Et alors, il y a d'ailleurs, dans votre note, dans une des notes d'intention, vous dites que vous travaillez sur la question de la passivité et de l'acquiescement. Alors, vous montrez effectivement dans ce conseil municipal, alors à une petite échelle, les ressorts, les raisonnements qui peuvent dévoyer la démocratie à force de l'utiliser comme argument. C'est-à-dire qu'à force de réclamer l'égalité, la démocratie parfaite, on arrive finalement à quelque chose de totalement absurde. Mmh. Et c'est finalement un calque aussi des lettres qui ont cette logique... parfaitement huilé des lettres de Himmler et qui amène à cette même... la logique qui amène finalement au dérèglement.
Mmh. Oui, c'est ce que j'ai essayé de mettre en scène. Dans le cas des premières scènes, celles qui traitent de la discussion des conseillers, avec un grand plaisir, et puis qui, je pense, est partagé par le public. Et puis ensuite, il faut gérer... pendant la lecture des lettres, sa gêne. Voilà. C'est-à-dire que c'est vrai que le public aime rire et que moi, ça ne me gêne pas de les faire rire, mais après, c'est chacun pour soi, quoi. Comment on s'arrange avec ce discours Puis après, il y a les très beaux poèmes de Heine qui permettent de respirer, mais qui... Et puis après, il y a un texte d'Himmler sur sa question juive et les efforts qu'il a dû consentir pour en venir à bout.
Voilà. Oui, il y a ce moment terrible, cette lecture de pourquoi tuer aussi les femmes, les vieillards, les enfants, pour qu'ils ne se vengent pas. Donc, il y a, voilà, c'est-à-dire que dans la lecture des textes, on va très loin. On est vraiment plongé dans l'horreur.
C'est-à-dire que ça fonctionne, voilà, on rit, et puis après, il faut gérer autre chose qui est... Et qui peut permettre, moi c'est ce que je souhaite, des discussions avec des classes, des discussions avec des... C'est-à-dire que dans ce genre d'objet qui n'est pas une pièce comme l'atelier ou comme ma dernière pièce, dont j'ai oublié le titre, d'ailleurs, Vers toi t'es promise, c'est vrai que là j'ai essayé de faire un objet qui est entre le théâtre et la pédagogie, quoi.
Oui, et puis on voit bien aussi cette question de voilà, qu'est-ce qu'il en sera de la mémoire de la Shoah dans 50 ans et puis de la mémoire de l'histoire en général.
C'est-à-dire comment
évolue finalement, comment se transmet, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on garde et puis finalement qu'est-ce qu'on jette aux oubliettes.
Voilà, et comment on relativise, c'est ce qu'on entend aussi dès aujourd'hui, c'est-à-dire que des gens peuvent se permettre de faire des blagues assez avec des pyjamas rayés, avec des étoiles jaunes, avec des écrits qui voilà, il y a, puis c'est cette adoration pour Céline, il y a quelque chose, c'est-à-dire que la période disons de l'interdit a cessé. Maintenant tout bon, bah peut se permettre de dire des choses, et en fin de compte, on en a marre, voilà, bon. Donc, dans peu de temps, il n'y aura plus de survivants d'anciens déportés. Les enfants de déportés dont je suis ont déjà un âge... ceux qui sont nés avant-guerre, c'est-à-dire, disons, les enfants de déportés, enfants cachés, on n'est pas loin non plus de la... Voilà, alors donc je pense que je me suis... que j'ai changé, c'est-à-dire ça n'est plus qu'est-ce qu'on doit dire, c'est de quoi va-t-on se souvenir? Et est-ce qu'on emploie les bonnes formules pour... c'est-à-dire par la scolarité, par les films qu'on peut faire, des films avec une grosse mise en scène, avec des reconstitutions, avec... Est-ce que c'est ça qui... Moi, je pense que tout est utile. Et puis, au-delà de ça, en fin de compte, il y a quelqu'un qui pourrait me dire « Mais à quoi ça sert, le souvenir ?» Voilà. Bon. Donc, c'est peut-être le problème d'une génération qui a été... Et je, de temps en temps, on me le reproche ou je me le reproche, mais je vois la vie sociale, les relations entre les gens à travers les camps, voilà, à travers ce que ma mère appelait la guerre.
Oui, c'est ce que disait la psychanalyste Anne Listern qui a travaillé sur ces questions, voilà, avec le savoir déporté.
Voilà.
Voilà, effectivement, finalement, c'est un filtre à travers lequel on voit le monde à partir du moment où c'est arrivé.
Bien sûr. Et il y avait une grande résistance des autres psychanalystes qui, eux, ne voulaient pas l'entendre. Et petit à petit, c'est les patients eux-mêmes, ceux qui n'avaient rien à voir avec cette histoire,
bien sûr,
qui véhiculaient dans leurs rêves, dans leurs obsessions, les camps. Voilà. Qui se trouvaient dans des trains, qui se trouvaient... Voilà, c'est-à-dire... Et non, c'est le savoir déporté, les premiers chapitres du savoir déporté sur le voyage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, il fallait à la fois être ancienne déportée, psychanalyste, juive, allemande. Voilà, il fallait beaucoup de choses pour arriver à faire un auteur comme elle. Donc, c'est... Souhaitons qu'il n'y ait plus d'auteur de ce type.
Voilà. Et on pense d'ailleurs, quand on assiste à cette pièce, Jean-Claude Grimbert, on pense beaucoup aussi à Thomas Bernhard dans cette manière grinçante de manipuler la provocation, d'aller très loin, à la fois dans la poésie, à la fois dans la colère, parce qu'on sent aussi une colère hein, quand on assiste à cette pièce, notamment au moment où, alors d'une manière drôle, mais tragiquement drôle, un des membres du conseil dit « Wittmer, on ne pourra plus nous reprocher de ne pas assumer notre passé si on choisit Heinrich Himmler.
» Oui, non, mais ça me fait plaisir que vous me compariez à Thomas Bernhard, parce que c'est un des auteurs les plus vivants, voilà, et qui, lui, s'est posé la question de l'autre côté. C'est-à-dire, que faire avec cette histoire ? Est-ce qu'on peut accepter juste de reprendre les classiques et de voilà, il y a une... En plus, l'Autriche est un cas particulier. La Bavière est toute proche, mais en Autriche, il n'y a pas ce sentiment qui existe quand même en Allemagne, qui a été une interrogation sur qu'est-ce qu'on a fait, de quoi sommes-nous les héritiers. En Autriche, pas du tout. Donc effectivement, Thomas Bernhard était à la fois un homme en colère, mais d'abord c'était surtout un très grand écrivain de théâtre et un homme... Dans la forme même de ces pièces, il a un courage, dans la construction des pièces, il a un courage extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a fait des objets que normalement on refuse au théâtre. Ces longs monologues, ces gens qui... Et je crois que pour bien jouer Thomas Bernhard, il faut s'y préparer. C'est-à-dire qu'il faut des comédiens tout à fait spécialisés, disons, qui incarnent et en même temps qui ont cette sorte de recul face à ce qu'ils profèrent eux-mêmes. Ah. Non, non, c'est un auteur tout à fait...
Mais vous aussi, dans cette pièce, vous faites preuve d'une certaine audace dans la construction, parce qu'on n'entend pas souvent au théâtre de la poésie comme ça, très longuement. On entend de plus en plus rarement la poésie sur scène, et on n'entend pas non plus souvent des archives. Vous lisez des archives brutes, finalement, sur scène.
Disons que moi, j'ai pas... écrit ça comme une pièce de théâtre, j'écris ça comme un jeu. C'est-à-dire, quand on regarde le texte, il n'y a pas de nom de personnage. Les comédiens qui veulent le jouer doivent se distribuer les répliques et construire eux-mêmes leur personnage du conseil municipal. Alors, il y en a qui le montent en faisant lire les lettres par les conseillers municipaux. Moi, j'ai refusé. J'ai voulu simplement que ce soit comme dans un collage, c'est-à-dire qu'il y a le conseil municipal, et puis après... Il y a la lecture des lettres qui sont faites par les mêmes comédiens, mais qui n'incarnent plus exactement ses conseillers. Voilà. Donc c'est... Mais en fin de compte, je ne sais pas comment travaillait Thomas Bernhard, mais il a écrit des pièces courtes qui sont absolument extraordinaires, où il raconte comment le metteur en scène avec qui il travaille va acheter un pantalon. C'est-à-dire qu'il arrive à faire du théâtre d'action complètement anodine presque ridicule, et il faisait du théâtre de tout. Alors effectivement, c'est une leçon. Moi, j'ai écrit beaucoup de pièces, en fait, beaucoup de pièces, l'Atelier, Dreyfus, Zone Libre, qui ont une construction tout à fait classique, et puis, enfin classique, pour mon époque. Et puis petit à petit, d'abord pour ne pas refaire les mêmes pièces, je cherche des formats différents et puis aussi des structures différentes. C'est une sorte de refus de la répétition.
Alors peut-être on pourrait venir... pour finir sur Heine, qu'on ne connaît pas toujours très bien en France, qu'on a oublié, vous l'avez dit, et souligner à quel point c'est étonnant la façon dont les poèmes de Heine, qui écrivait 100 ans avant les textes que vous faites lire de Himmler, on a l'impression que ce sont des réponses réellement. Alors évidemment, vous avez choisi ces textes, mais les problématiques malgré tout, de la judéité, de l'antisémitisme...
J'aurais pu choisir des tas d'autres textes qui répondent. C'est-à-dire, c'est cette aspiration à l'universalité, alors au retour à une sorte de judaïsme non religieux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il se convertit, mais il refuse les religions en général. C'est mais il est profondément juif. Et en ce sens-là, je me sens profondément une sorte de petit-neveu. Voilà. Il a cette... ce que j'avais choisi, moi, dans le judaïsme quand j'étais jeune, c'est-à-dire un désir d'universalité et de culture, voilà, et d'acceptation des autres. Et une sorte de tolérance et il va chercher tous les sujets, c'est-à-dire l'esclavage, il va sur la pauvreté. C'est pour ça que j'ai voulu illustrer, peut-être un peu scolairement d'après certaines personnes, mais j'ai voulu que dans les poèmes cités, il y ait une sorte de... qu'on voit à côté de l'obsession criminelle de Himmler, qu'on voit cette ouverture de Heine. Et avec en même temps cette amertume, ça n'a pas servi, un siècle après, que ce soit Heine et tous les autres génies de la littérature de langue allemande, ça n'a, voilà, on ne peut pas dire que ça n'a servi à rien, mais en tout cas, le fait de prévoir presque l'événement n'a pas empêché l'événement d'avoir lieu.
Oui, et vous dites d'ailleurs dans un autre texte que pour vous, voilà, faire du théâtre sert à comprendre inutilement des choses, ni à éduquer, ni à protéger. Donc vous-même, finalement, voilà. Vous prenez presque cette inutilité de la littérature, du théâtre.
Oui, en même temps, disons que pour le théâtre, il se passe quelque chose, c'est que le théâtre amateur, maintenant, s'est emparé des œuvres contemporaines. Et si je pense à une pièce comme l'atelier est énormément joué par des troupes amateurs, c'est-à-dire c'est des gens qui travaillent ou des gens qui sont en scolarité ou qui sont des instits ou même des paysans qui répètent le soir. Et pour répéter, pour jouer l'atelier, il faut lire des livres sur ce sujet. Il faut revenir aux journaux de l'époque. Il faut s'imprégner d'une langue, d'une connaissance et tout. Donc, il y a un travail souterrain. Bon, maintenant, s'il y a une crise majeure économique, l'affolement nous ramènera. On les voit presque poindre, là, des aboyeurs de services. Alors après, est-ce qu'ils seront doués ou non? C'est vrai qu'on a été on a joué de malchance parce qu'on est tombé sur des gens dans leur genre extrêmement doués. Ou avec un public extrêmement assoiffé de certitude et de revanche.
Donc on leur conseillera de relire le poème de Heine sur les ânes.
Voilà. Les ânes électeurs.
Voilà. Merci Jean-Claude.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Pardon. Merci encore Jean-Claude Grimbert. Je rappelle que votre pièce HH se joue donc sur la scène du Théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 24 décembre et que l'on peut en lire le texte aux éditions Actes Sud Papier. C'était Mémoire Vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet, www.radio-rcj.info, le site de la Fondation, www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.